Voilà, chers amis, nous sommes heureux de vivre avec vous ce long week-end de Pentecôte sur ce thème, donc résumé en un mot. C'est donc par certains côtés très énigmatique, mais ça m'ouvre des perspectives inouïes. Parce que présenté de cette manière, l'oreille, ce n'est pas suffisamment pointue pour m'obliger à n'aller que dans une seule direction. J'ai toujours quelques craintes lorsque celui qui préside commence à parler sur le thème. Parce qu'on ne sait jamais où il va aboutir, n'est-ce pas? Il m'est arrivé de devoir arrêter des amis qui président en disant « Non, non, ne prenez pas ma place !» D'ailleurs, je peux déjà me passer d'une première lecture, mais je comprends tout à fait que notre frère l'ait faite, dans Proverbe 20, verset 12. Nous allons faire deux lectures pour introduire notre sujet, toutes deux dans le Nouveau Testament. La première dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 7, Marc chapitre 7, versets 31 à 37. Où il est écrit que Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Fata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus le recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets ». Vers la fin du Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, l'épître de Jacques, chapitre 1er, je lis à partir du verset 16, et nous irons jusqu'au verset 22, Jacques 1, 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas, on va traduire un peu différemment, à être auditeur. Nous n'avons pas là le terme classique rendu par écouter, sur lequel nous reviendrons, mais un autre terme. Donc mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à être simplement ou seulement auditeur, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alors, notre thème nécessite quelques remarques préalables pour que vous sachiez à peu près dans quelle direction nous allons nous engager pour ce programme de 5 étapes de réflexion biblique. Tout d'abord, il faut savoir que notre enseignement s'inscrit dans le cadre d'un thème plus général, mais bien sûr qui demande beaucoup de temps à être traité, celui de l'offrande de notre corps. Vous connaissez tous, je suppose, cet impératif extrêmement fort qui ouvre la partie pratique de cette cathédrale de la foi chrétienne qu'est l'épître de Paul aux Romains. Romains 12, versets 1 et 2, n'est-ce pas? Je vous exhorte, je vous encourage, je vous supplie, le terme est extrêmement fort, frère, à cause des compassions de Dieu à votre égard, je vous exhorte à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte logique, raisonnable, conforme à ce que la raison demande. Puis ensuite, il est question, dans le cadre de l'offrande du corps, du renouvellement permanent de notre raisonnement, de notre intelligence, de notre manière d'appréhender, de notre pensée, ceci dans le but de pouvoir discerner la volonté de Dieu, laquelle est bonne, agréable et parfaite. Offrez vos corps. Nous n'allons pas nous arrêter, en tout cas je ne le pense pas, sur ce thème dans sa dimension générale. Il était extrêmement important pour les croyants de l'Église de Jésus-Christ dans la capitale de l'Empire romain, tout simplement parce qu'on avait des conceptions de la spiritualité qui étaient très particulières, qui allaient d'ailleurs beaucoup se développer jusqu'à peu près au IVe siècle, et qui consistaient à dire que le corps était un handicap, que le corps était un obstacle à la spiritualité, que le corps était une prison dans laquelle l'esprit humain était enfermé et qu'il n'y avait pas de spiritualité qui puisse aller s'épanouissant sans à quelque part, d'une part, mépriser le corps et le dépasser pour s'élever dans une sorte de nirvana en se fusionnant dans une divinité totalement impersonnelle. On retrouve cette pensée aujourd'hui dans ce qu'on appelle habituellement le Nouvel Âge. C'est un des grands axes de la pensée religieuse moderne qui est en train de couvrir le monde. On parle beaucoup de mondialisation. Eh bien, dans la mondialisation religieuse, cet élément est un élément particulièrement déterminant. Il y avait même un jeu de mots dans la pensée religieuse grecque qui jouait avec le mot corps, qui se dit en grec soma, psychosomatique, ça vous dit tout, n'est-ce pas? Et puis le mot tombeau, qui se dit en grec sema. Et les philosophes religieux dans le monde gréco-romain disaient que le soma, le corps, et le sema, le tombeau de l'âme, n'est-ce pas? Alors l'apôtre Paul arrive de la part du Seigneur Jésus, rempli du Saint-Esprit, avec un message absolument bouleversant pour l'Église de Jésus-Christ à Rome, qui, bon, elle avait fait le point, mais qui allait devoir communiquer ce message plus loin, écoutez, la conception religieuse dominante de notre temps est complètement fausse. Notre corps ne doit pas être négligé, il ne doit pas être méprisé, il ne doit pas être considéré comme un obstacle, comme un handicap, bien au contraire. Le Seigneur nous invite, nous supplie, tout en nous respectant, il nous invite à offrir notre corps en sacrifice vivant, et à l'intérieur de ce corps, tout ce système de pensée qui était sous la domination de la puissance des ténèbres et qui a commencé à être transformé à l'heure de notre nouvelle naissance. Et donc, dans cet ensemble de séminaires, il y a offrez vos corps, il y a offrez vos pensées, ça c'est un thème très très important que je traiterai dans 2 semaines en Alsace pour un séminaire du genre de celui-ci. Offrez vos pensées, et qui sait si c'est important dans le monde d'aujourd'hui, la pensée est absolument fondamentale chez l'homme, elle oriente tout, hein. Offrez votre langue, c'était un thème que j'ai développé il y a quelque temps à Limoges, et puis donc celui qui a été choisi pour notre séminaire, offrez vos oreilles. Alors nous allons, dans un temps d'introduction, présenter l'importance du sujet par quelques réflexions fondamentales sur le Dieu qui parle, parce que il ne vaudrait pas la peine d'avoir des oreilles si Dieu ne parlait pas, et si nous n'avions pas cette capacité de communication qui est un don extraordinaire, et qui est l'apanage, disons-le au sens noble du terme parole, qui est un apanage exclusif des humains. Il faut nous en souvenir, c'est très important, à l'heure où on a tendance à niveler et à considérer que l'homme fait simplement partie du monde animal, en ayant une supériorité à quelque part, mais enfin, il est quand même un animal. Rien que le don d'une parole structurée, obéissant à des lois, permettant des nuances infinies dans la communication réciproque, c'est déjà un signe extraordinaire que nous sommes les créatures de Dieu. Alors après cette introduction, ce qui va nous intéresser, ce sont les systèmes de fuite et de brouillage face à la voix de Dieu. Systèmes de fuite et de brouillage qu'on peut facilement identifier dans le monde, lorsque nous sommes en présence de ce que nous avons été avant de connaître Jésus-Christ et que nous voyons dans le cœur et la vie de ceux qui nous entourent, comment l'homme fait tout pour brouiller la voix de Dieu lorsque Dieu l'interpelle. Mais au-delà de ces systèmes de brouillage venant de ceux et celles qui sont en dehors de Christ, il y a nos propres systèmes de brouillage en tant que croyants. Et en fait, ils ressemblent étrangement aux systèmes de brouillage utilisés en dehors de la relation personnelle du disciple de Jésus-Christ avec Dieu. Donc cela va nous occuper aujourd'hui. Nous allons ensuite construire, Bible en main, ce que nous appellerons une bonne écoute de Dieu. Comment apprendre dans nos vies à écouter Dieu. Et puis, dans une troisième partie, nous irons à l'écoute de l'homme, à l'écoute de nos frères. Parce que nous avons souvent, et nous devons nous en humilier, de gros problèmes, non seulement dans notre communication verticale, mais ô combien dans notre communication horizontale. Faut-il dire que dans la mesure où nous réglons un certain nombre de problèmes dans notre communication verticale, notre communication horizontale va sensiblement s'améliorer. Mais il y a d'autres pièges, et nous verrons donc comment les aborder. Donc 3 grande direction, système de fuite et de brouillage de la voix de Dieu, comment construire une bonne écoute de Dieu, et ensuite, à l'écoute de l'homme, mon frère, les problèmes, les pièges, dans la communication horizontale. Alors nous allons utiliser tout au long de nos études ce, je ne sais pas comment appeler ça, cet objet très particulier que je vais poser là. Ça c'est un souvenir qui m'est très cher. C'est quelque chose qui a été fabriqué à Madagascar, donc où je vais de temps à autre, et cela m'a été donné à la fin d'un séminaire comme le symbole de ce que nous avions vécu ensemble. Vous reconnaissez au-delà du support une sorte d'antenne qui est tournée à la fois dans son angle vers le ciel, mais pas uniquement, puisqu'elle va quand même en même temps dans une direction qui permet d'atteindre l'homme qui est proche, n'est-ce pas? Et il y a un animal certainement très peu agréable pour bon nombre d'entre nous, qui fait monter même certaines personnes sur les tables quand l'animal s'approche trop près, mais qui a quand même de grandes qualités, puisque c'est en fait aussi une toile d'araignée. Et vous savez combien le travail de tissage d'une toile d'araignée est quelque chose d'extraordinaire. C'est encore un reflet fantastique de l'intelligence sublime de notre Dieu. Alors, il n'y a pas de suggestion visuelle plus percutante, je trouve, que d'avoir ceci sous nos yeux. Nous allons travailler, nous aurons à remplacer plusieurs fois les petits papiers qui sont accrochés là, sur cette antenne, mais vous allez voir comment nous allons procéder. Ne vous étonnez pas si je m'inscris dans la ligne de ce que notre frère disait tout à l'heure, à savoir qu'il notamment cité quelque chose qui s'est passé, je crois, en 2001, si mes souvenirs sont exacts, mais enfin, peu importe. Je citerai assez souvent des hommes et des femmes qui ont quelque chose à nous apporter dans ces domaines. Je crois que c'est important aussi dans l'enseignement, de simplement laisser la parole à d'autres personnes, croyants et non-croyants, qui peuvent nous aider dans notre réflexion et qui, simplement, souvent, dans ce qu'ils disent, dans ce cadre, s'inscrit dans la ligne de la pensée de Dieu. L'oreille qui entend, faut-il le dire, la faculté de l'ouïe est une merveille. J'ai sous les yeux, là, une citation très intéressante. Quelqu'un a dit que comparé à l'oreille, l'ordinateur le plus puissant est aussi primitif qu'une bétonnière. Ça rabaisse un peu le caquet de ceux qui considèrent l'ordinateur comme une divinité, et ils sont nombreux aujourd'hui. Ce que nous désignons par le mot « oreille » n'est en fait que l'oreille externe. Cette excroissance de chair et de cartilage sur le côté de la tête, de forme et de taille variable, j'ajouterai, si ce n'est pas dit dans le texte, d'orientation variable, regardez les miennes. Un canal la relie au tympan, derrière lequel se trouve l'oreille moyenne, qui comprend les trois plus petits os du corps humain, à savoir le marteau, l'enclume et l'étrier. L'oreille moyenne amplifie le son 22 fois, et le transmet à l'oreille interne où s'effectue la véritable audition. Elle se compose principalement de la cochlée ou limaçon qui comporte des milliers de cellules microscopiques ayant la forme de fibres, chacune étant accordée à une fréquence particulière. Les vibrations mécaniques sont alors transformées en impulsions électriques qui sont acheminées par les quelque 30 000 circuits du nerf auditif vers le cerveau où s'effectue le décodage. On a pu dire que l'oreille humaine était un chef-d'œuvre de miniaturisation. Encore un autre texte par un médecin qui s'est beaucoup intéressé au sujet. Il évoque la flexibilité de la membrane du tympan qui lui permet d'enregistrer aussi bien le bruit que fait une épingle en tombant que celui du métro de New York 100 millions de millions de fois supérieurs. Tous les potaches ont appris en cours de biologie que dès que le tympan entre en vibration, on revient à la même pensée, trois osselets, communément appelés le marteau, l'enclume et l'étrier, transmettent ces vibrations à l'oreille moyenne. J'ai travaillé sur la presque totalité des os du corps humain, mais aucun n'est comparable à ces trois petits os, les plus petits de notre corps. Contrairement à tous les autres, ils ne se développent pas avec l'âge. Ils sont déjà parfaitement constitués chez le nouveau-né. Ils sont constamment en mouvement, puisque chaque son qui frappe l'oreille les met en action. Ensemble, ils multiplient jusqu'à 20 fois la puissance de l'air qui a fait vibrer le tympan en entrant dans l'oreille. Et plus loin, il dira que l'oreille humaine peut distinguer jusqu'à 300 000 sons. Et, pardon de le dire, c'est relativement peu à côté de certains animaux qui ont été équipés de manière supérieure à l'homme dans ce domaine. Mais l'homme a d'autres atouts qui amplifient en quelque sorte l'usage de l'oreille. Bon, ce sont simplement quelques petites illustrations, mais il me semble que ça valait la peine de le dire en introduction. Quelqu'un dit que Dieu a donné à l'homme deux oreilles, mais une seule bouche, pour qu'il puisse entendre deux fois plus qu'il ne parle. Ce n'est pas un croyant, c'est un philosophe grec, en plus un stoïcien, qui a vécu entre l'an 50 et l'an 125 ou 130. Dieu a donné à l'homme deux oreilles, mais une seule bouche, pour qu'il puisse entendre deux fois plus qu'il ne parle. Et il existe un proverbe russe qui dit ceci, « Le sage a de longues oreilles, de grands yeux, et une petite langue. » Ceci pour souligner l'importance de l'écoute, l'importance de l'oreille dans la Bible. Il faut savoir que les termes qui tournent autour du mot oreille, écouter ou entendre, tous les mots de cette famille se trouvent aux alentours de 1450 fois dans les Écritures. C'est donc un mot important. Vous pouvez dire que des mots qui tournent autour de 1000 dans les Écritures sont des mots qui nécessitent une attention toute particulière, près de 1450 fois. Si je vous posais la question, quel est dans les Écritures le livre par excellence centré sur la question de l'oreille et de l'écoute, quelle serait votre réponse? Parce que c'est important, n'est-ce pas? Plus nous lisons les Écritures, plus nous devons discerner un certain nombre de thèmes clés qui parcourent les Écritures, parce que cela va nous permettre à la fois de temps en temps de revenir à certains livres dont nous avons particulièrement besoin à certains moments de notre existence, et puis aussi dans l'aide que nous apportons à autrui, nous pouvons parfois simplement dire, bien écoute, reprends la lecture de tel livre, parce que là, il y a des éléments qui vont t'aider dans ta situation et tes problèmes. Est-ce que vous voyez un livre très important des Écritures qui traite beaucoup du thème de l'écoute ? Le Deutéronome, oui, indirectement. Mais c'est bien parce que nous allons y venir. Je dis indirectement, mais c'est très exact. Les proverbes, bien entendu, quoique les proverbes parlent beaucoup de la langue. Hein. La dominante, c'est la langue, mais qui dit langue, dit obligatoirement écoute. Mais vous avez 140 passages à peu près dans le livre des proverbes qui alors sont centrés sur l'usage de la langue. Mais là aussi, l'écoute est indirecte dans la réprimande, etc., n'est-ce pas ? Alors, vous avez un livre de l'Ancien Testament qui est très, très centré. Il est jalonné partout du terme « écouter, entendre », c'est le livre du prophète Jérémie. Jérémie, ça, c'est un livre essentiel quand on veut se poser des questions sur l'écoute, parce qu'il est le livre du drame d'un peuple qui a cessé d'écouter. Et j'ai relevé environ, là aussi c'est intéressant, 140 mentions des verbes écouter, entendre, prêter l'oreille. Et je vous encourage, peut-être dans le prolongement d'un week-end comme celui que nous vivons, je vous encourage à lire et à relire ce livre du prophète Jérémie pour discerner un certain nombre de messages très forts sur ce thème. Quant au Nouveau Testament, il contient 508 mentions du verbe écouter ou entendre ou de ses dérivés. Oui, 501 fois avec les dérivés, 431 fois écoutés tout seul. Et puis alors, vous avez une parabole qui est absolument fondamentale, la première des paraboles prononcées par Jésus. Et c'est intéressant que la première des paraboles prononcées par Jésus, moi je suis tenté de l'appeler la parabole de l'oreille ou la parabole de l'écoute. Bien que ce ne soit pas le nom qu'on lui donne. Je pense que Jacques le sait parce qu'il me fait des signes. C'est donc la parabole du semeur. C'est la première parabole prononcée par Jésus. Et en réalité, on pourrait tout aussi bien, et à mon avis, ce serait peut-être même un peu plus juste. C'est vrai que, bon, le semeur sorti pour semer. Hein, alors, on ne peut pas passer à côté, parabole du semeur. Mais en fait, quand vous savez que dans Matthieu 13, dans les 23 versets de cette parabole avec son explication, 20 fois reviennent ces mots « entendre, écouter, oreille ». 20 fois. Et en fait, elle est le portail d'entrée des paraboles. Jésus insiste dans cette parabole introductive sur l'importance de l'écoute, parce que cette écoute va être très très importante pour les dizaines d'autres paraboles que Jésus va prononcer, et que seuls ceux qui ont vraiment soif du Christ dans leur vie vont chercher à décrypter en compagnie de Jésus, puisqu'un tri va se faire hein, sur la base des paraboles, parce qu'elles ont un côté à la fois très simple mais aussi très énigmatique. Et les disciples de Jésus allaient vers Jésus pour lui dire « Écoute, maintenant, nous aimerions en savoir un petit peu plus, parce que nous ne comprenons pas tel ou tel ou tel aspect. » Quelqu'un écrit au sujet de cette parabole du semeur, c'est une parabole qui souligne l'importance de l'écoute. Elle sert d'introduction pour éclairer tout ce que Jésus va dire par la suite. Elle nous interdit de réduire la parole de Dieu à un livre, mes amis, écoutez bien ça. Parce que là, nous allons toucher à un de nos problèmes de disciples de Jésus-Christ dans notre culture occidentale. C'est que trop souvent, nous avons et nous réduisons la parole de Dieu à un livre. Le livre, comme disait Walter Scott. Et nous allons voir qu'il y a un côté là, peut-être appauvrissant, si nous n'y prenons pas garde, mais n'anticipons pas. La cible première de la parole est l'oreille. Jésus sème les graines de la parole de Dieu dans nos oreilles. des oreilles dures comme un sol pavé dans lequel aucune semence ne peut germer. Des oreilles encombrées de caillasses où les graines prennent difficilement racine. Des oreilles remplies d'épines empêchant n'importe quelle plante de se développer. Enfin, des oreilles bien disposées permettant à toute plante de porter du fruit. Le fait le plus important ici-bas est que Dieu parle. Le Seigneur commande l'écoute. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Cet ordre se transmet pendant quelques décennies dans les premières églises chrétiennes et réapparaît tout au début de l'Apocalypse. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il fait l'objet des célèbres répétitions de Jésus aux sept églises. Et puis nous avons lu Jacques 1, 19, n'est-ce pas, que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Et un commentateur très justement fait remarquer que aussi bien l'apôtre Paul que Jacques, et Jacques d'une manière toute particulière, Jacques s'en prend à la langue. Dans chacun des cinq chapitres de l'épître de Jacques, il est question de la langue. C'est un des grands thèmes de cet épître, entrelacé avec d'autres thèmes extrêmement pratiques, extrêmement dérangeants. Mais si Jacques, de la part de Dieu, s'en prend à la langue, jamais il ne s'en prend à l'oreille. S'il exhorte ses lecteurs à ne pas parler trop, jamais il ne leur reproche d'écouter trop. J'ai relevé cette petite illustration concernant un animal qu'on appelle le lièvre du désert, qui a de grosses et grandes oreilles. Non seulement elles améliorent son audition, mais elles servent aussi de radiateur pour réguler la température de son corps. Le lièvre doit compter sur ce système de refroidissement unique parce qu'il ne consomme pas assez d'eau dans le désert pour que la température de son corps soit régularisée par la transpiration. Et le commentateur d'ajouter, vous penserez peut-être que j'exagère un peu, mais dans un sens, nous avons besoin d'oreilles radiateurs. Et il fait alors allusion à Jacques 1,19, où il est question d'être lent à la colère. Et donc dans ce cadre, il indique, pour que nous ne surchauffions pas sur le plan émotif, nous devons avoir des oreilles assez grosses pour entendre tous les faits relatifs à une situation donnée. Peut-être que ceux qui ont le sang qui bouillit un petit peu vite et la moutarde qui monte un peu rapidement, d'une manière toute particulière, devraient se souvenir de l'importance d'apprendre à écouter. Apprendre à écouter. Peut-être que plutôt que de s'attaquer à la colère directement, il faudrait s'attaquer à la question de l'oreille pour éviter les surchauffes émotionnelles. L'apprentissage de l'écoute, nous y reviendrons. Faut-il dire, en terminant cette introduction, en réalité, nous n'avons pas deux oreilles. Mais d'une certaine manière, nous en avons quatre. Nous avons deux oreilles physiques, partiellement visibles. Et puis nous avons des oreilles au-delà des oreilles internes, hein, on a parlé de l'oreille interne, nous avons aussi des oreilles intérieures. Et ce sont elles qui nous intéressent, les oreilles de notre cœur, puisqu'on peut être sourd physiquement et pourtant bien entendre avec le cœur. On peut être sourd physiquement et pourtant bien entendre avec le cœur. Et j'aimerais simplement vous rappeler cette prière de Salomon au début de son règne, lorsqu'il dit à Dieu dans 1 Roi 3:9, et là je vous donne le texte littéral, original, « Accorde à ton serviteur un cœur qui écoute. Accorde à ton serviteur un cœur qui écoute. » C'est-à-dire un cœur qui comprenne, un cœur attentif, un cœur qui réagisse bien, un cœur qui soit intelligent. Peut-être encore une double remarque fondamentale pour nous montrer combien nous avons besoin de ce type d'enseignement. Je n'avais pas réalisé pendant longtemps, jusqu'à ce que je lise un ouvrage écrit par un rabbin qui a pris soin de souligner que pour les Hébreux, l'écoute est plus riche et plus authentique que la vision et la contemplation. Et dans un commentaire sur le texte de Deutéronome, chapitre 4, verset 12, Deutéronome 4, verset 12, on va peut-être le prendre tout d'abord ici dans nos traductions, Deutéronome 4, verset 12. L'Éternel vous a parlé du milieu du feu, vous avez entendu le son des paroles, c'est sur le Sinaï, n'est-ce pas? Mais vous n'avez point vu de figure, vous n'avez entendu qu'une voix. C'est intéressant parce que ce rabbin souligne que Moïse rappelle aux Hébreux en quoi consiste la révélation. Et il leur dit, vous ne voyez rien, vous entendez seulement. Alors que cette théophanie, cette manifestation sensible de la présence de Dieu était accompagnée d'éclairs et de feu. Et un autre rabbin de lui dire, mais oui, le texte biblique est même extrêmement précis, puisque Moïse dit aux Hébreux, vous n'avez vu aucune image, simplement une voix. À plusieurs reprises, Moïse insiste sur ce fait, c'est dans le discours que Dieu se révèle. Chose curieuse, Moïse va jusqu'à dire, vous n'avez pas vu d'image, mais vous avez vu, sous-entendu, une voix. Tout se passe comme si Israël avait vu la voix, voir une voix, vu la voix divine. Et j'ai vérifié dans une autre traduction, de Deutéronome 4:12, c'est très intéressant. Yahvé vous parle du milieu du feu. Vous entendez la voix des paroles. Vous entendez la voix des paroles. Mais vous ne voyez pas d'image. Rien qu'une voix. Et un commentateur de dire les anciens Hébreux et les anciens Grecs différaient quant à la nature de leur perception sensorielle fondamentale. Donc, la perception sensorielle fondamentale, au singulier, c'est l'élément fondamental qui permet de percevoir, le sens fondamental pour percevoir ce qui nous entoure. Les Hébreux étaient enclins à concevoir l'intelligence, la compréhension des choses, comme une sorte d'écoute. Tandis que les Grecs l'assimilaient à une sorte de vue. Les Grecs sont centrés sur la vue, les Hébreux sont centrés sur l'ouïe. Et le problème, c'est que par le biais de la Renaissance, la civilisation grecque et la pensée grecque est venue jusqu'à nous. et nous a terriblement influencés au point que nous attachons énormément d'importance à la vue. C'est un problème. Nous avons besoin absolument de revenir à un regard qui soit centré sur l'écoute. C'est ce que nous allons développer. Et allant d'ailleurs dans ce sens, c'est très intéressant, il y aurait beaucoup de choses à dire. Un théologien qui s'est beaucoup penché, semble-t-il, sur ces questions, souligne ce fait. L'invention remarquable des caractères d'imprimerie mobile a joué. C'est Gutenberg qui trouva ce moyen ingénieux en 1437. En peu de temps, de nombreux livres purent être imprimés et mis entre les mains des gens à travers toute l'Europe. Avant cette date, les livres étaient minutieusement recopiés à la main. C'est pourquoi ils étaient fort onéreux et extrêmement rares. Ces manuscrits étaient retenus par des chaînes aux tables des bibliothèques pour empêcher qu'ils ne soient volés. Si les livres étaient rares, les lecteurs également. À quoi bon savoir lire s'il n'y a rien à lire? On lisait les écritures à voix haute pour que ceux qui ne savaient pas lire et qui constituaient l'immense majorité puissent avoir accès à la parole. La parole écrite devenait une parole audible et vivante. La lecture de la Bible était un exercice public, un aspect de la vie de l'Église. Une nuit, comme le sommeil le fuyait, le roi Assuérus, souhaitant occuper utilement son temps, ne se fit pas apporter un roman policier pour le lire lui-même, jusqu'à ce qu'enfin ses yeux se ferment. Il écouta avec leurs oreilles. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent. Apocalypse 1, verset 3. Avant Gutenberg, les gens ne lisaient pas silencieusement, ils écoutaient les paroles de l'auteur, même si les ondes sonores provenaient de leur propre voix. Une personne lisait à haute voix, les autres écoutaient en silence. Et voyez, nous sommes devenus un peuple de handicapés dans le domaine de l'écoute. Au point que 9 chrétiens authentiques sur 10 passent la plus grande partie de leur temps à lire les Écritures cérébralement, silencieusement, sans du tout utiliser leur corde vocale. Et de cette manière, déjà, nous nous sommes sensiblement appauvris dans le domaine de l'écoute de Dieu. Nous avons énormément de peine dans l'écoute de Dieu à cause de notre manière de lire. C'est important, ce que nous voyons là. Je vous encourage, mais de tout mon cœur, à passer beaucoup plus de temps à écouter les Écritures en les lisant d'une manière aussi audible que possible. Non pas pour réveiller un immeuble de 5 étages, mais pensez à ce qui se passe dans les synagogues. C'est là qu'on retrouve cette tradition de l'écoute supérieure à la simple lecture cérébrale. Puisque quand vous entrez dans une synagogue, ou si vous allez à Jérusalem, dans la seule synagogue au monde à ciel ouvert, n'est-ce pas, au pied du mur des anciennement des Lamentations, vous allez vivre dans un brouhaha impressionnant. C'est d'ailleurs une lecture-écoute à laquelle s'associe tout le corps. Il y a une mobilisation de toute la personne, puisque pendant que les uns se penchent en avant, les autres vont dans ce sens. C'est absolument extraordinaire, n'est-ce pas? Il y a une participation de la personne, c'est toute la personne qui, d'une certaine manière, est à l'écoute de Dieu. Et il faut nous souvenir que dans notre civilisation occidentale, nous avons terriblement appauvri notre écoute de Dieu. Simplement parce que nous sommes beaucoup plus centrés sur une approche grecque qu'une approche juive des Écritures. Voilà déjà Dans cette simple introduction de Quoi réfléchir, j'ai trouvé hier d'ailleurs une citation très intéressante. C'est un témoignage. Dans mes plus anciens souvenirs, je me vois devant la lumière chancelante des bougies, avec ma mère qui me lisait des histoires. Tout en étant fasciné par les flammes, j'écoutais attentivement. Je devais avoir 3 ou 4 ans. Bien avant que je sache lire, j'ai appris à écouter. C'est peut-être la leçon la plus précieuse que j'ai jamais apprise. Le plus étrange, c'est que j'ai toujours considéré la lecture comme une forme d'écoute. Les livres ont toujours été des personnes pour moi, moins celles de l'auteur, que le livre lui-même qui me parlait tandis que j'écoutais. Et nous sommes aujourd'hui là aussi dans un monde où trop peu d'enfants apprennent tout petits à écouter. Tout simplement parce que maman et papa travaillent, et parce qu'on a les yeux rivés sur l'écran, et là encore, le problème de l'écran, c'est qu'il absorbe beaucoup plus le regard que les oreilles. Et c'est ce qui fait qu'en réalité, pardon de le dire, mais le petit écran est un très mauvais instrument d'éducation. Je ne veux pas dire qu'il soit nul dans ce domaine, mais ne lui donnons pas toutes les vertus qu'on lui donne si facilement, parce qu'il privilégie le regard sur une véritable écoute qui permet alors de mûrir les choses, etc. Je ne vais pas entrer ici dans tous les détails. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. L'homme a développé, inventé des instruments extraordinaires dans le domaine de l'écoute. Des antennes paraboliques poussant comme des champignons renversés, des oreilles géantes pour écouter l'espace de manière continue. Et des sommes fantastiques sont dépensées dans ce domaine. Qu'en est-il de l'écoute de Dieu? Alors nous avons cette grande affirmation du livre de Jérémie, c'est intéressant là aussi, 434 fois dans le livre de Jérémie, il nous a dit que Dieu parle. 434 fois, c'est d'une densité absolument extraordinaire. Le prophète Ézéchiel contiendra 305 fois la même affirmation. Dieu parle. Dieu communique un message vivant et puissant. Et lorsque les prophètes affirment de manière continuelle, n'est-ce pas, que Dieu parle, ils mettent le Dieu vivant en contraste, vous le savez, avec les idoles muettes, celles qui ne produisent aucun son dans leur gosier. Et là encore, il y a des choses très très intéressantes concernant le Dieu qui parle par les prophètes. Quelqu'un écrit ceci, « Il n'est pas nécessaire de parcourir longuement les livres des prophètes pour rencontrer l'expression « La parole de l'Éternel fut adressée à ». Mais en réalité, le verbe qu'on trouve ici est le verbe « être ». La parole de l'Éternel fut à. Le mot « adressé » ne figure pas dans le texte hébreu. Interrogez le prophète en question et il vous dira qu'il ne s'agit pas là d'une froide réalité métaphysique, mais au contraire d'une expérience dynamique, inquiétante et même dévastatrice. Quand la parole du Seigneur vient à nous, vous avez bien conscience de ce qu'elle est. Et elle a une manière bien particulière de révéler sa présence par des effets tangibles, pratiques. On pourrait aussi bien dire, la parole de l'Éternel devint une réalité vivante pour. Pourquoi ? Parce qu'en hébreu, être signifie une présence active, dynamique. En ce qui concerne Dieu, il n'y a pas autant de différence
qu'on pourrait le croire entre le fait d'agir et celui de parler. Pour la mentalité occidentale moderne, la parole est un instrument de communication verbale. C'est le véhicule par lequel la pensée est convoyée de celui qui parle vers celui qui écoute. Et c'est ainsi que l'on peut opposer la parole aux actes. Et il en va tout autrement pour la mentalité hébraïque de l'Ancien Testament qui considère le mot comme quelque chose d'actif, de dynamique, presque de concret. En réalité, c'est le même terme hébreu qui signifie à la fois mot et chose. C'est intéressant, n'est-ce pas? Voyez là, une fois de plus, combien nous sommes marqués par la culture dans laquelle nous vivons. Et combien la nouvelle naissance doit engendrer par le travail du Saint-Esprit en nous toutes sortes de révolutions dans le domaine de notre système de pensée pour que dans des domaines auxquels nous ne pensons pas, nous nous détachions de notre culture pour entrer dans la culture de Dieu. Vous comprenez? Tous ces domaines sont des domaines. On est inconscient dans ce domaine de la manière dont nous sommes influencés par les paramètres de notre culture occidentale. Et combien nous offrons parfois de résistance à l'action du Saint-Esprit au moyen de la parole pour apprendre à lire les Écritures, à entendre la parole de Dieu autrement, à donner aux mots ce caractère dynamique extrêmement puissant. Quand Dieu parle, mes amis, chaque fois que nous voyons l'expression « Dieu dit dans les Écritures », nous devrions nous souvenir que c'est le Dieu vivant qui parle, et si c'est le Dieu vivant qui parle, quelque chose va se passer. D'ailleurs, prenez les textes dans l'Ancien Testament dans lesquels il est dit Dieu vivant ou l'Éternel est vivant, vous pouvez être sûr que dans le contexte immédiat, Dieu fait quelque chose de particulier. Alors, vous avez cette expression de Jean 1, au commencement était la parole, le logos d'ailleurs. Alors, c'est intéressant parce que le mot hébreu équivalent devrait se traduire par parole-action. Et c'est la raison pour laquelle certaines traductions ont préféré le mot verbe au mot parole, parce que le mot verbe va précisément dans la direction de l'action. La parole de Dieu n'est pas un simple énoncé oral, elle est chargée de toute la volonté créatrice et ordonnatrice de Dieu, comme on le voit clairement dans le récit de la création, dans Genèse 1 et dans quantité d'autres passages. Dieu ne parle pas à la légère. Je veille sur ma parole pour l'exécuter, Jérémie 1:12. Il est fidèle et puissant pour faire ce qu'il dit. Sa parole est comme un feu, Jérémie 5:14. Elle est comme un marteau qui brise le roc, Jérémie 23:29. Elle est comme le rugissement du lion, Jérémie 25:30. Elle ne peut être anéantie, Jérémie chapitre 36. Et puis vous avez la réaction de Jérémie, chapitre 15, verset 16. « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Jérémie 23, verset 9. « Mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. » Et puis alors, dans le Nouveau Testament, vous avez ce texte de Luc 1, 37, dans la révélation, le dévoilement de l'immense événement qui va être celui de l'incarnation auprès de Marie, lorsque l'ange lui annonce l'événement de cette grossesse miraculeuse par la vertu du Saint-Esprit. Et où notre texte dans Luc 1, 37 met sur les lèvres de Marie cette parole « Rien n'est impossible à Dieu ». Mais le texte grec est beaucoup plus fort. Le texte grec dit littéralement aucune parole, je le mets quand même dans le bon ordre français, aucune parole de la part de Dieu ne sera impuissante. Vous avez le mot parole dedans. Aucune parole de la part de Dieu ne sera impuissante. C'est toujours dans cette ligne que je viens d'expliquer, quand Dieu parle, sa parole est vivante, sa parole est percutante. Il nous est dit dans Hébreux 1, verset 3, que le Seigneur Jésus soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu parle, il parle de manière personnelle et bouleversante. Et Dieu fait des promesses à celui qui tend l'oreille, à celui qui entend, à celui qui écoute. Alors là aussi, des textes dans Jérémie, « Écoute la voix de l'Éternel, tu t'en trouveras bien », Jérémie 38, 20. Jérémie 7, 23, « Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple ». Exode 15, 26, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. » Jean 5, 24, pour passer au Nouveau Testament, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. » Et je pense que chacun d'entre nous, je l'espère, a fait cette expérience personnelle. De voir des textes surgir, en quelque sorte, de la page. Où on avait comme le sentiment que Dieu était là, présent dans la pièce. On ne l'entendait pas de manière physiquement audible, mais c'était parfois presque plus fort que s'il nous avait parlé assis à côté de nous. Cette parole vivante, n'est-ce pas, qui jaillit des lignes des Écritures. J'ai sous les yeux un extrait de lettre d'un auditeur de la Voix de l'Évangile. C'est la première lettre que cet auditeur envoyait à la Voix de l'Évangile. Je dois vous dire franchement que depuis ce jour, il me semble que ce n'est pas uniquement le bouton de mon appareil que j'ai tourné, mais aussi celui de ma vie. Vous voyez, il a écouté et il s'est rendu compte qu'en tournant le bouton de son appareil, le fait d'écouter avait changé sa vie. La parole de Dieu est une parole percutante. Et le grand danger dans nos vies, c'est en avançant dans la vie chrétienne, de banaliser tout cela. Et finalement, de ne plus donner à la parole de Dieu le relief qu'elle a. Et c'est là que l'exercice d'une saine écoute de Dieu va beaucoup nous aider à donner à l'écoute la place qui lui revient, et à la parole de Dieu la place qui lui revient. Dieu parle, la réponse de l'homme. La réponse de l'homme. Et la réponse de l'homme doit être une écoute attentive, une écoute de qualité, une écoute qui se traduit en action. J'ai relevé ici cette illustration intéressante dans l'église de Jésus-Christ au Gabon. Existe une coutume plutôt intéressante et peu commune pour assurer l'écoute attentive. Des femmes âgées qui portent de petits chapeaux uniques parcourent la salle pendant tout le culte. Elles portent à la main un bâton mince ayant à peu près 2 mètres de long et presque aussi large que l'index. Si elle trouve quelqu'un en train de sommeiller, de parler, ou tout simplement de ne pas prêter attention, alors une de ces femmes de patrouille tapera le coupable sur la tête. En faisant signe du doigt et en désignant le front, Elle signale, il faut être attentif, cet enseignement est important et mérite notre respect, il faut l'écouter. Et c'est là que nous allons rejoindre notre ami Jacques, lorsqu'il disait que le thème de l'écoute est fortement présent dans le Deutéronome. Il est fortement présent dans le Deutéronome, pourquoi ? Parce que dans le Deutéronome, vous avez pratiquement 90 mentions de l'obéissance. Obéir, désobéir. Et c'est intéressant parce que le livre du Deutéronome est un livre d'éducation des enfants. C'est un livre que j'utilise dans mes séminaires sur l'éducation des enfants. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui s'adresse à la deuxième génération après l'Égypte, une jeune génération qui va entrer dans le pays promis et qui doit être éduquée par son père. Et d'ailleurs, le livre du Deutéronome est encadré par deux versets dans le chapitre premier, presque à la fin du Deutéronome, où Dieu est présenté comme un père, ce qui est très rare dans l'Ancien Testament. L'idée du père est présente, mais dans le vocabulaire, les mots sont peu présents, n'est-ce pas ? Et entre ces deux mentions de la paternité divine vis-à-vis d'Israël, vous avez 90 mentions à peu près de l'importance de l'obéissance. Or, en fait, entre écouter et obéir dans les Écritures, il y a un lien extrêmement étroit. Ben, tout d'abord, simplement, dans le mot obéir. Si vous allez dans un bon dictionnaire étymologique, vous verrez que le mot obéir vient d'un terme latin qui signifie prêter l'oreille, d'où être soumis à, c'est intéressant, n'est-ce pas, prêter l'oreille à. Vous avez le petit mot ob qui, dans le contexte, veut dire devant, et audire qui veut dire écouter. En grec, même pensée. Vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, un verbe qui est très très souvent, je crois, 431 fois utilisé dans le Nouveau Testament et traduit par écouter ou entendre, akouo. Eh bien, ce qui est passionnant, c'est que l'un des principaux mots traduit depuis le grec du Nouveau Testament en français par obéir, écoutez bien ce que je vais dire, c'est upakuo. Vous avez akuo dedans. Vous avez écouté et vous avez simplement un préfixe, upo, qui en grec veut dire écouter en se plaçant dessous. C'est-à-dire soumettre ses oreilles intérieures à la parole qui vient du dessus, c'est-à-dire qui nous est apportée avec l'autorité de Dieu. Par contre, bon, ça c'est un verbe, je vous le dis au passage, qui est présent, je crois, 21 fois dans le Nouveau Testament. Vous en avez d'autres. J'en ai d'autres. Mais ça c'est un des verbes essentiels, écouter dessous, mettre son oreille intérieure sous la parole, l'incliner en signe de soumission, accepter son autorité, puis alors vous avez désobéir. Et là aussi, vous avez plusieurs termes, mais vous avez aussi un terme de la même famille, écoutez-le, parakouo. Akouo à nouveau, écouter, entendre, et puis le fameux para, bon, il y a une contraction dans le verbe, c'est normal, parce qu'il y a deux A qui se suivent, mais c'est para, vous le connaissez, hein, paratonnerre, parachute et tous les paras que vous voulez. Hein, et ici, il y a une notion d'éloignement, parce que para a plusieurs sens en grec. J'écoute, mais je m'éloigne. Au lieu de me placer dessous, je refuse d'être sous le parapluie de la parole de Dieu. Je m'éloigne de cette parole de Dieu parce que je ne veux pas qu'elle fasse autorité dans ma vie. Parakouo. D'ailleurs, c'est intéressant, vous pouvez peut-être le noter dans le Nouveau Testament, parakouo est utilisé par exemple dans Marc 5, verset 36. Marc chapitre 5, verset 36. Dans le ministère du Seigneur, qui est confronté à la fois au même moment avec une femme atteinte d'une perte de sang, mais aussi avec la fille de Jaïrus, n'est-ce pas ? Les deux récits s'entremêlent. Et au verset 35, il est dit « Comme il parlait encore, Jésus, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, et là vous avez une petite locution de quelques mots, sans tenir compte de ses paroles. Hein, sans tenir compte de ses paroles, en grec c'est parakou. Vous voyez, donc, refuser d'écouter et de tenir compte des paroles de quelqu'un d'autre, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Parakou, idée d'éloignement de la parole de Dieu. Le drame du jardin d'Éden, c'est que Satan a attaqué l'homme, entre guillemets, au niveau de l'oreille. Le péché est entré dans le cœur de l'homme par l'oreille, même si ensuite il est dit qu'elle a vu. Mais en fait, ça a commencé dans l'oreille. Hein? Et en semant le doute sur la véracité de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit ? Ève a désobéi, et son mari à son tour. Et dans Genèse 3, verset 17, c'est très très intéressant. Genèse chapitre 3, verset 17, dans la cascade de malédiction qui va tomber sur la puissance des ténèbres, sur l'homme et sur la femme, et sur la nature par conséquence. Dans Genèse chapitre 3, verset 17, il est dit, donc, Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » Puisque tu as écouté la voix de ta femme, c'est intéressant parce que le mot hébreu veut à la fois dire « prêter l'oreille » et « obéir ». C'est-à-dire que vous pouvez très bien traduire ici « parce que tu as obéi à la voix de ta femme ». Etc., etc. Donc, à partir de là, nous pouvons nous pencher sur ces méthodes, ces systèmes de fuite devant la voix de Dieu, ces systèmes de brouillage plus ou moins subtils. Mais alors, avant d'aller vers ces systèmes de brouillage, moi j'aimerais quand même savoir jusqu'à quelle heure nous allons. Je ne veux pas faire déborder vos oreilles, ça ne sert à rien. Jusqu'à quelle heure est-ce qu'on va ? Parce qu'il est...
C'était combien, une heure et demie ?
Oui, à peu près une heure et quart. Parce que là, on a commencé à... Il y a 1h10. Hein? 10 minutes. Donc on commence, on y va, vous tenez le coup. On travaille, hein. On travaille. Alors, nous allons donc voir ces systèmes de brouillage et j'aimerais simplement peut-être demander à quelqu'un de venir. Coupez, ne coupez pas s'il vous plaît l'antenne, hein, parce que j'aimerais bien la conserver le plus longtemps possible, mais coupez bien la ficelle. Alors, vous cherchez le numéro 1, parce qu'il y a des numéros, vous ne les voyez peut-être pas d'où vous êtes, mais il y a des numéros, il y a un numéro 1. Alors, qui voudrait démarrer, couper le numéro 1 Alors le 1, simplement. Oui, oui, surtout la ficelle. Voilà.
Ah, voilà, je suis rassuré, ça a bien marché. Voilà, alors, mon cher frère, je vais te laisser nous dire à haute voix de quoi il s'agit.
Les oreilles.
Oui, se boucher les oreilles. Merci, mon frère. Je veux bien le récupérer et parce que je. Oui, mais pas quand on écoute Dieu.
Non.
Pour le moment, nous en sommes à l'écoute de Dieu. Hein? Et quand on écoute de Dieu, il ne faut pas se boucher les oreilles. Psaume 58, versets 5 et 6. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Et vous savez que c'est à force de se boucher les oreilles quand Dieu parlait que l'oreille d'Israël est devenue une oreille endurcie. Et nous devons faire attention. Parce que lorsqu'en tant que disciples de Jésus-Christ, nous commençons à nous éloigner du Seigneur, c'est-à-dire à cesser d'accepter l'autorité de la parole de Dieu, celui qui parle et auquel on se soumet. Souvenez-vous de l'obéissance. Le Saint-Esprit fait alors un travail absolument extraordinaire. La grâce de Dieu se déploie d'une manière fantastique pour nous rattraper, n'est-ce pas? Pour nous ramener sous l'autorité du Seigneur. Mais on croise sur sa route, en tant que disciples de Jésus-Christ, des frères et sœurs qui ne sont plus sensibles, qui n'entendent plus la voix de Dieu. Ils ont pris tellement l'habitude de se boucher les oreilles quand Dieu parlait que peu à peu se crée un handicap dans l'oreille intérieure, comme cela s'est passé dans la vie du roi Saül, n'est-ce pas? Saül, dans son esprit d'indépendance, dans son zèle charnel, dans son orgueil, eh ben on est arrivé à un point, n'est-ce pas, où il était incapable d'entendre la voix de Dieu. Et vous connaissez ce texte d'1 Samuel 28, où finalement, devant ce problème, face à ce silence du Dieu qu'il ne pouvait plus entendre, il s'est tourné vers l'occultisme. Et finalement, il en est mort. Alors il y a là quand même un message extrêmement solennel. D'une part, à l'endroit de quiconque d'entre nous auquel Dieu s'adresse peut-être depuis des années, et qui depuis des années se bouche les oreilles en disant « parle toujours, je verrai bien quand j'aurai le temps, je t'écouterai, et si un jour j'ai envie ». C'est dangereux. Et il était évident que même dans sa grâce, Dieu doit parler de plus en plus fort au fur et à mesure que la surdité s'accroît. Et quand Dieu parle de plus en plus fort, ça fait mal. Ça fait mal. Mais parce que c'est le seul moyen, n'est-ce pas? Il arrive un moment où Dieu n'a plus d'autre solution, en quelque sorte, que de nous ébranler dans nos profondeurs les plus insondables, pour que ce bouchon saute en quelque sorte, n'est-ce pas? Vous connaissez sans doute cette histoire de John Wesley, qui, ce fondateur du méthodisme, cet homme de Dieu qui a été utilisé par Dieu pour révolutionner toute la vie à la fois spirituelle, mais aussi morale, sociale et finalement économique de toute la société britannique d'abord. Et puis ensuite, par répercussion au-delà des frontières de la Grande-Bretagne, John Wesley prêchait un jour à Dublin, et un certain personnage de la Bible, qui était très opposé à ses prédications, mais un amateur de belle musique, prit la décision d'assister à l'une de ces réunions pour entendre les magnifiques chorales s'exprimait durant ses conférences. Et comme il était déterminé à ne rien écouter du prédicateur, il se bouchait les oreilles pendant toute la durée des messages, n'enlevant ses doigts des oreilles que lorsqu'il y avait un intermède ou une partie musicale ou chantée. Et puis voilà que subitement, quelqu'un vient le dire, une mouche se pose sur cette aire d'atterrissage fantastique qu'était son nez. Alors il était bien sûr déterminé à ne pas lâcher ses oreilles, il ne voulait pas entendre le message, mais la mouche persistait, alors il faisait, vous imaginez, tous les signes, grimaces et autres hochements de tête pour essayer de la chasser, et vous connaissez les mouches, hein? Elles sont capables d'être très tenaces quand elles ont décidé de se mettre à quelque part, et cette mouche venait et revenait encore, si bien que finalement, à un moment donné, il n'a pas pu faire autrement pour s'en débarrasser que de se lâcher une oreille, juste au moment où la grâce de Dieu était à l'œuvre de manière extraordinaire en sa faveur, puisque John Wesley était en train de dire ce texte présent et dans les paraboles et dans les sept églises du début de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles pour entendre ou pour écouter, écoute. Juste à ce moment-là, n'est-ce pas ? Et cet homme a été tellement bouleversé par la coïncidence entre le fait qu'il venait de lâcher son oreille et le propos du prédicateur qu'il a écouté la suite et qu'il s'est donné à Jésus-Christ ce jour-là, n'est-ce pas ? Se boucher les oreilles. Se boucher les oreilles. Vous connaissez ce texte terrible de Matthieu chapitre 13, versets 13 à 17 ? Dans le cadre de la parabole des terrains, de la parabole du semeur, mais de la parabole des oreilles, c'est ce que j'ai mis en rouge dans ma Bible, versets 13 et suivants. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir tout ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Mais quel message, mes amis ! Et ça veut dire aussi que non seulement se produit un endurcissement de l'oreille, mais qu'il arrive un moment, nous ne savons pas à quel moment cela arrive. Mais il arrive un moment où, en quelque sorte, Dieu, lui, dans sa sagesse, sait qu'une sorte de mur du son est dépassé. C'est-à-dire qu'il sait que désormais, il n'y aura plus de retour en arrière possible. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dans Romains 1, lorsqu'il évoque l'état moral de l'Empire romain, et qui est l'état de notre monde aujourd'hui, va dire à plusieurs reprises, n'est-ce pas, c'est pourquoi Dieu les a livrés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, non seulement Dieu laisse courir les choses sur la terre, il ne fait plus rien pour retenir les événements sur la terre par son esprit, n'est-ce pas, mais il donne une impulsion qui pousse dans le sens du péché. Et c'est pourquoi nous devons faire attention, n'est-ce pas ? Alors ce n'est pas à nous de dire « telle personne en est arrivée à un point tel de refus de l'écoute que maintenant Dieu est en train de la pousser. » Nous, notre rôle, c'est de plaider jusqu'au bout, n'est-ce pas ? Pour qu'une personne soit se tourne vers le Seigneur, soit revienne au Seigneur. Mais néanmoins, les Écritures sont claires. Quand on joue avec ce genre de feu, on s'expose à cette forme de jugement de ce Dieu de grâce absolument extraordinaire, mais qui, à un moment donné, dit, cette fois-ci, il n'y a plus de retour possible. Non seulement je le laisse faire, mais je vais même le pousser dans ce sens. Puisqu'il veut aller dans cette direction, allez, vas-y. Vous savez que c'est un peu ce que Dieu a fait dans l'ancienne alliance avec Balaam, le prophète mercenaire, hein. Le prophète, malgré lui, ce n'est pas un vrai prophète de l'Éternel, c'est un devin, n'est-ce pas? Il utilise d'ailleurs des méthodes occultes, il faut s'en souvenir, n'est-ce pas? Quand il insiste, en quelque sorte, auprès de Dieu, pour aller quand même, Dieu lui a dit, tu n'iras pas, un point c'est tout, parce que ce peuple est béni, il va insister. Quand Dieu dit une chose, il n'y a pas besoin d'aller lui demander une deuxième fois, si c'est clair, c'est clair, n'est-ce pas? Et donc, Dieu connaît la cupidité qui est dans le cœur de Balaam, son désir d'être bien payé. Et à un moment donné, il dit, bon, ben, puisque tu veux y aller, vas-y. C'est-à-dire qu'il, non seulement il ne se tait pas, n'est-ce pas? Il lui dit, bon, ben, tu veux y aller, vas-y. C'est comme, quelque part, si Dieu l'envoyait. Et puis, une fois qu'il est parti, l'ange de l'Éternel intervient. Et se place en travers de son chemin pour lui montrer que son chemin est un chemin de folie. Méfions-nous, hein? À boucher trop nos oreilles, il peut arriver des moments où Dieu nous dit, bon, ben, tu veux vraiment y aller? Vas-y. Et alors nous allons souffrir. Et nous allons souffrir. Donc, premier enseignement important, ne pas se boucher les oreilles. Ça peut coûter extrêmement cher. Mais par contre, je vous laisse et on s'arrête là, cette dernière illustration, c'est un employé chinois à la station de brouillage qui n'avait qu'une seule responsabilité, empêcher toute pénétration des missions évangéliques dans son pays. On lui détermina une longueur d'onde bien précise avec l'ordre formel de ne jamais écouter, seulement d'appuyer sur le bouton de brouillage à l'heure indiquée. Mais sa curiosité était bientôt plus forte que son obéissance. Il ne se laissait aucun repos jusqu'à ce qu'il ait trouvé pourquoi ces émissions étaient interdites. C'est ainsi qu'il se mit à écouter discrètement à chaque occasion, jusqu'au jour où la parole de Dieu toucha son cœur et où il put accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Peu de temps après, il eut la miraculeuse occasion de fuir son pays. Aujourd'hui, il vit aux USA et travaille au service du Seigneur. C'est bien, parce que le diable fait une œuvre qui le trompe. Et il y a ceux qui se bouchent les oreilles, il y a ceux qu'on utilise pour essayer de boucher les oreilles des autres et les leurs en même temps, et puis dans sa souveraineté, dans son amour, Dieu est vainqueur. Alors nous allons nous arrêter là, parce que ce soir nous aurons encore, vous voyez, quelques petits papiers à ouvrir, à découvrir, pour continuer à évoquer ces différents brouillages dans l'écoute de Dieu. Nous voulons prier, et si nous prions au Seigneur, c'est pour te bénir. Pour te bénir tout d'abord parce que tu n'es pas muet. Tu n'es pas une idole muette. De la même manière, tu n'es pas un Dieu sourd. Nous te remercions de tout notre cœur, parce que tu es le Dieu vivant. Tu es. Et si tu es, cela veut dire que tu agis. Et si tu parles, cela veut dire aussi que tu agis. Et que tu agis de manière puissante, de manière surprenante, de manière dérangeante, de manière transformatrice. Et nous te bénissons pour ta parole puissante. Nous te remercions parce que notre vie a déjà changé dans tant et tant de domaines. Le jour où nous avons non seulement entendu, mais accueilli, reçu, où nous avons accepté de nous placer sous l'autorité de cette parole vivante. Tu ne nous as pas déçus. Nous te remercions pour ces attouchements divins qui ont modifié déjà sensiblement notre mentalité, mais tu as encore tout tant et tant de chemin à faire dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous te demandons donc la suite de ce week-end. Contribue à cela. Mais nous avons à cœur de te prier ensemble ce soir. Tout d'abord pour ce que nous connaissons, qui, après t'avoir rencontré, après avoir commencé à se placer sous ton autorité, se sont écartés de toi. Et que tu travailles avec une patience extraordinaire, avec une grâce sans mesure, par ton esprit, afin que leur oreille intérieure soit à nouveau débouchée et que leur cœur soit visité. Nous plaidons, Seigneur, dans le nom de ton Fils bien-aimé, pour que tu travailles avec puissance dans leur cœur et qu'ils cèdent à ton action, à ta parole vivante, au travail de ton esprit. Et puis nous te prions, Seigneur, pour ceux et celles que nous connaissons et qui ne connaissent pas encore ton Fils Jésus-Christ, qui ne l'ont pas encore rencontré et qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. Peut-être y en a-t-il ici même durant ce week-end. Seigneur, parle puissamment et donne-leur d'accepter, d'ouvrir leur oreille intérieure et de la placer sous l'autorité de ta parole. Ils pourront vérifier combien ta parole est vivante, combien elle est vraie, combien elle est puissante pour transformer la vie de ceux qui se tournent vers toi. Merci de mettre à nu tous nos systèmes de brouillage liés à notre cœur tortueux, à notre orgueil facile, à nos indépendances coupables. Donne-nous une oreille ouverte, une oreille sensible à ta voix. Nous voulons te bénir et te remercier pour ta grâce généreuse envers nous, en Jésus-Christ. Amen.